Richard. Aussi à un cœur, mais en attendant, elle vous présente le journal. Bonjour Aurore.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Le déficit public bondit. L'INSEE vient de dévoiler les chiffres pour 2023. On y revient en tout début de journal.
Officiellement, il n'y a pas de tension entre Israël et son allié américain. L'ONU a exigé un cessez-le-feu immédiat à Gaza et cette fois, les États-Unis n'ont pas mis leur veto. Ils se sont abstenus.
Ils se sont abstenus, exactement. Le franc CFA, lui, va-t-il disparaître du Sénégal? Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, souhaite en tout cas en sortir. Et puis, sans surprise, le sport le plus suivi des Français, c'est le football. On vous détaille dans quelques instants le dernier baromètre sur l'utilité du journalisme. L'INSEE vient de publier le chiffre du déficit public de la France pour 2023. Il atteint 5,5% du PIB et non pas 4,9% comme l'anticipait le gouvernement. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, Jean-François Husson, avait déjà annoncé la couleur en fin de semaine dernière quand il dénonçait une gestion calamiteuse des finances publiques. Là, on parle du budget de l'an dernier et non de celui de cette année pour lequel le gouvernement recherche 10 milliards d'économies supplémentaires. Alors comment s'explique ce déficit 2023 supérieur aux attentes et quelles sont les conséquences, Marie Viennot?
158 milliards d'euros, ce devait être le montant du déficit de 2023 quand la loi de finances fut votée. En novembre déjà, Bercy avait prévenu que ce déficit s'approcherait plutôt des 173 milliards d'euros, car les rentrées fiscales avaient été bien moins fortes qu'anticipées. C'est ce qui explique cette fois encore le nouveau dérapage constaté par l'INSEE. Ce qui est sûr, c'est que les prévisions de déficit annoncées pour 2024 et les années suivantes sont remises en cause et que la marche sera plus haute à monter pour être en dessous des 3% en 2027, comme le gouvernement s'y est engagé auprès de Bruxelles. Il y a deux semaines, la Cour des comptes avait évalué la réduction des dépenses nécessaires à 50 milliards d'euros entre 2025 et 2027. Selon l'OFCE, l'effort devrait plutôt être de l'ordre de 70 à 80 milliards d'euros. Le danger, c'est qu'en coupant trop dans les dépenses, le gouvernement bride la croissance. Alors même s'il pointe les collectivités locales et la sécurité sociale comme piste d'économie, possible qu'ils doivent désormais revoir son opposition à toute augmentation d'impôts. Hier, le président du Modem, François Bayrou, a appelé d'ailleurs le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse ciblée des taxes sur les super-profits ou les super-dividendes. Et le ministre des Finances, Bruno Le Maire, s'est dit cette fois ouvert à la discussion, alors que la semaine dernière encore, il avait rejeté cette option, pourtant évoquée par la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, Yaël Braun-Pivet.
Les explications de Marie Viennot. Emmanuel Macron en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne, pour voir de ses propres yeux l'ampleur du fléau de l'orpaillage illégal. Chaque année, près de 10 tonnes d'or sont prélevées illégalement dans ce département français, à la frontière avec le Brésil. Cette pratique a coûté la vie l'an dernier à deux militaires de l'opération Harpie, destinée justement à lutter contre ce problème. Et pour continuer à faire disparaître les sites d'orpaillage illégal, la brigade fluviale et nautique vient de recevoir un nouveau bateau piloté par l'adjudant-chef Eddy et l'adjudant Benjamin. À leur côté, Maxence Lambrecq.
Nous sommes à bord du Jaguar, nouveau navire de la gendarmerie nationale ici en Guyane pour aller en mer intercepter le long du littoral les orpailleurs, les trafiquants de drogue. Nouveau navire beaucoup plus puissant que les anciennes pirogues qui longeait le fleuve. Maintenant, la gendarmerie peut intervenir en mer. À l'arrière, là, on les entend, deux moteurs, 650 chevaux en tout, capables d'aller jusqu'à 100 km/h, et on est en train d'ailleurs de les approcher.
On a l'ascendant sur eux parce que notre bateau est plus puissant, plus gros.
Ce ne sont plus des petites pirogues qui avancent doucement, mais vraiment comme sur nos autoroutes, des go-fast. Ils viennent soit de la droite, c'est-à-dire du Brésil, soit de la gauche, c'est-à-dire du Suriname. À bord, 4 gendarmes, l'arme en bandoulière.
Des armes longues de type HK ou alors des FAMAS aussi qu'on a.
Prêts éventuellement à riposter, c'est déjà arrivé. Nous voyons au loin plusieurs îlots.
Il faut rechercher les coins où ils aiment se cacher. Dans les petites criques au niveau des forêts, il y a des petites entrées de fleuves.
Avec des guetteurs aussi, exactement comme dans certains quartiers, des guetteurs qui préviennent à chaque fois qu'ils voient cette embarcation, le Jaguar en mer. D'ailleurs, les autorités reconnaissent ici que cette lutte n'en finira jamais étant donné l'ampleur du terrain de chasse.
Le reportage à Camopi, en Guyane, de Maxence Lambrecq. Nous devons nous armer face à la menace islamiste. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir, pour justifier le relèvement du niveau d'alerte attentat au maximum. 4000 militaires supplémentaires sont notamment placés en alerte. Cela fait suite à l'attaque qui a eu lieu vendredi dernier dans une salle de concert de la banlieue de Moscou et qui a coûté la vie à 139 personnes. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique.
Et à ce sujet, Richard, le discours de Vladimir Poutine a quelque peu changé.
Oui, contrairement à sa première allocution, le président russe a admis hier soir qu'il s'agissait d'une attaque islamiste. Pourtant, il continue de sous-entendre qu'il y a un lien avec l'Ukraine. Un exercice d'équilibriste que nous explique notre correspondant en Russie, Sylvain Tronchet.
Plus de 48 heures après la revendication du groupe État islamique, Vladimir Poutine a donc prononcé IGIL, l'acronyme qui désigne Daesh en russe. Le chef du Kremlin est même allé jusqu'à admettre que les membres du commando étaient des islamistes radicaux. Cela devrait, en toute logique, suffire à désigner le coupable. Mais non, dans la minute qui a suivi, le président russe a immédiatement retourné le viseur vers Kiev.
Nous savons par qui cette atrocité contre la Russie et son peuple a été commise. Nous voulons savoir qui l'a commandité. Et la question se pose, à qui cela profite-t-il? Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives menées par ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays aux mains du régime néo-nazi de Kiev.
Dans sa logique toute personnelle, Vladimir Poutine a également noté que si les États-Unis désignaient eux-mêmes Daesh, c'était sans doute pour protéger le régime de Kiev. Kiev qui serait, selon lui, en train de créer de nouvelles jeunesses hitlériennes, les islamistes, les néo-nazis, les Ukrainiens. Voilà donc la coalition des ennemis de la Russie qu'a désigné le maître du Kremlin. Mais son porte-parole l'a promis hier, il se fiera aux résultats de l'enquête.
Les détails de Sylvain Tronchet et 7 suspects sont actuellement en détention dans cette affaire. Pour la toute première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé hier un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Jusqu'à maintenant, les États-Unis avaient toujours mis leur veto à cette résolution, mais cette fois, ils se sont abstenus. Face à cela, Israël a annulé la visite d'une délégation à Washington. La Maison-Blanche se dit déçue. À Washington, Sébastien Paour.
Officiellement, il n'y a pas de coup de froid entre les deux pays, mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, le reconnaît. La réaction israélienne à l'abstention américaine déçoit et étonne la Maison-Blanche. Nous sommes un peu surpris. Il semble que les services du Premier ministre cherchent à créer l'impression d'une divergence, alors que ça n'est pas nécessaire. Et alors que le soutien américain n'a pas varié depuis l'attaque du Hamas. Pas de changement dans notre politique. Nous avons été clairs dans notre soutien à un cessez-le-feu dans le cadre d'un accord sur les otages. L'équipe Biden prend clairement ses distances avec la politique du gouvernement Netanyahou. Nouvel avertissement sur une offensive à Rafah, mais les liens restent forts. Nous entretenons toujours des relations très étroites avec nos partenaires israéliens et avec le gouvernement en place. Ça ne veut pas dire que nous serons d'accord sur tout, et mon Dieu, nous ne le sommes pas. Mais ça arrive entre amis. Vous n'êtes pas d'accord, vous discutez. Israël reste un allié proche et un ami. La meilleure preuve, conclut John Kirby, le ministre israélien de la Défense, est en ce moment dans la capitale américaine pour discuter du soutien militaire à Israël.
Et malgré cet appel à un cessez-le-feu, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Des témoins ont notamment fait état de frappe tôt ce matin près de la ville de Rafah. Le tout nouveau président du Sénégal promet de gouverner avec humilité et transparence. Bassirou Diomaye Faye, candidat anti-système, a largement remporté l'élection. À 44 ans, il devient le plus jeune chef d'État de ce pays ouest-africain. Il a déjà assuré que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Quant à son programme, Bassirou Diomaye Faye prévoit notamment la sortie du franc CFA. Notre envoyé spécial à Dakar, Omar Waman, l'a rencontré dans son QG de campagne.
C'est l'un des derniers héritages de la colonisation, le franc CFA, perçu comme une entrave au développement, mais toujours en circulation au Sénégal, 64 ans après l'indépendance. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, se dit déterminé à mener une réforme monétaire.
L'Afrique, c'est 54 pays. Il n'y a que 14 pays qui n'ont pas leur propre monnaie. Les 40 autres ont leur monnaie. Vouloir intégrer le cercle de la majorité des pays africains qui ont leur propre monnaie, en quoi ça doit être un drame? Pourquoi devons-nous renoncer à un levier de financement aussi important quand on aspire au développement, nous sommes très pauvres, très endettés, très en retard sur le monde. Et on nous dit, voilà un levier que vous devez pouvoir activer pour aller plus vite vers le développement endogène. On vous dit, non, catastrophe, n'en parlez pas. Cette souveraineté-là, comme les autres souverainetés, nous ne comptons pas y renoncer. Au contraire, on va davantage l'affirmer, parce qu'un pays souverain doit être totalement souverain, mais pas à moitié.
Dans un premier temps, le président sénégalais va tenter de convaincre ses homologues d'Afrique de l'Ouest d'abandonner également le franc CFA au profit d'une monnaie commune qui faciliterait les échanges. Si les conditions n'étaient pas réunies, il mettrait tout en œuvre pour doter le Sénégal de sa propre monnaie.
Emmanuel Macron l'a félicité sur les réseaux sociaux. Il se réjouit, dit-il, de travailler avec Bassirou Diomaye Faye. Les libertés et les droits des citoyens sont-ils bien respectés? C'est la question à laquelle répond le rapport remis par la Défenseure des droits. Elle observe pour l'an dernier une banalisation des atteintes aux droits, en particulier à ceux des personnes les plus vulnérables. Cette fragilisation n'est pas nouvelle, selon Claire Hédon, mais elle s'inscrit dans une tendance de fond avec une forme d'accélération. Les réclamations reçues l'an dernier concernent majoritairement les droits des étrangers, Talita Thiraud.
Et oui, 28% des réclamations font état d'atteinte au droit d'asile, de manquement en termes de sécurité. Ce sont majoritairement des faits de violence dont la police nationale est accusée dans 47% des cas. Le rapport pointe également les contrôles d'identité discriminatoires. La Défenseure des droits dénonce par exemple la surreprésentation de certaines populations issues de l'immigration dans ces contrôles. En 2017 déjà, l'enquête Accès aux droits du Défenseur des droits relevait que les jeunes hommes perçus comme arabes, maghrébins ou noirs ont une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlés que les autres. En 2021, près de 47 millions de contrôles ont été réalisés, soit en moyenne 9 contrôles par patrouille et par jour. La Défenseure des droits propose donc des solutions, une formation à destination des policiers. En 2023, près de 3500 élèves gardiens de la paix y ont participé. Les discriminations en raison des origines se poursuivent également au travail. Selon le rapport, 13% des réclamations reçues en 2023 sont concernées. Un tiers ont eu lieu dans l'emploi privé.
Les précisions de Talita Thiraud. Plus de 8 Français interrogés sur 10 estiment que le journalisme est un métier utile. Un chiffre en augmentation d'un point par rapport à l'an dernier. Cette tendance est dévoilée dans le cadre des assises du journalisme qui viennent de débuter à Tours. Et à quelques mois des Jeux Olympiques, le baromètre sur l'utilité du journalisme est lié forcément au sport. Le traitement médiatique de l'actualité sportive bénéficie globalement d'un regard bienveillant dans l'opinion. Plus d'un Français sur 3 estime qu'il est intéressant. Pierre Robert.
À la question « Diriez-vous que vous avez confiance dans le travail et l'information délivrée par les journalistes ?», le sport arrive largement en tête. 78% des personnes interrogées font confiance aux journalistes sportifs. Si la culture française a la réputation de ne pas assez valoriser le sport, près d'un Français sur deux déclare s'informer régulièrement à ce sujet. 22% le font à un rythme quotidien et un peu plus au moins une fois par semaine. Sans surprise, connaître les résultats des matchs et compétitions prime et le football continue d'être le sport qui suscite le plus d'intérêt. Sur le podium des canaux les plus suivis, la télévision, puis Internet et enfin la radio. Malgré la passion qui les anime, les amateurs de sport restent pourtant exigeants. Près de 8 Français sur 10 estiment ainsi que les journalistes sportifs doivent rester neutres et ne pas afficher leurs préférences dans la couverture des événements. Un chiffre qui change du tout au tout lorsqu'il s'agit de compétitions internationales. Près de la moitié des personnes interrogées estiment ainsi qu'un commentateur sportif doit supporter la France. À l'approche des Jeux Olympiques, la consigne semble donc claire. Pourtant, les JO ne semblent pas susciter un intérêt démesuré à l'approche de l'événement sportif, 37% des Français disent l'attendre avec impatience et seulement 14% avec beaucoup d'impatience.
Et puis un dernier hommage à Frédéric Mitterrand cet après-midi à l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Une messe ouverte au public. L'ancien ministre de la Culture est mort la semaine dernière des suites d'un cancer. Il avait 76 ans. Le temps et quelques pluies éparses ce matin sur tout le pays. Le ciel est très nuageux, sauf sur la pointe de la Bretagne qui a le droit à quelques rayons de soleil. Il fait relativement doux. Les températures ne descendent pas en dessous des 6 degrés. En moyenne, il fait 9 à 10 degrés à Paris, Reims et Montélimar.